Vous écoutez, on lit pour vous.
Il y a 20 ans, un élan de générosité sans précédent. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 23 décembre 2024 dans Le Devoir. Le 26 décembre 2004, au matin, un tremblement de terre d'une rare intensité survient au large de l'île de Sumatra. L'onde de choc provoque un tsunami d'une force inégalée qui ravage l'Asie du Sud-Est et cause des dommages jusque sur la côte est de l'Afrique. Bilan de cette catastrophe, 230 000 morts dans 14 pays, des millions de blessés et de sans-abri, autant de destins interrompus, suspendus à un fil en attendant un long retour à une vie normale. La réponse humanitaire sera aussi sans précédent. Retour en 3 temps sur l'une des pires catastrophes humanitaires de l'ère moderne. Chaque fois que je pense au tsunami, je me souviens de l'odeur de la mort. Presque 20 ans après avoir été déployée en Indonésie, Lina Holguin a des souvenirs toujours aussi vifs. Arrivée sur place une dizaine de jours après la catastrophe, celle qui œuvrait alors au sein d'Oxfam Québec se retrouve dans l'épicentre du désastre. La ville indonésienne de Mandahassé, qui a été frappée par un mur d'eau de 10 mètres de haut. Quand je suis arrivé, les équipes d'urgence étaient encore à sortir des décombres des personnes décédées, se souvient Lina Holguin. Il y avait des morts partout, des débris et encore des débris. Des employés locaux d'Oxfam cherchaient encore leur famille et ne savaient pas si elle était encore en vie ou décédée. Des scènes semblables se reproduisent tout autour de l'onde de choc au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande, au Myanmar et jusqu'en Somalie. L'Indonésie et la province d'Aceh en particulier a payé le plus gros prix en vie humaine. Presque 170 000 morts, des dizaines de villes et de villages entièrement rasés. Les autorités locales sont dépassées, l'armée et la police inefficientes. Dans les premiers jours, les équipes d'urgence affluent du monde entier. On s'affaire à sortir les victimes des décombres, à soigner les blessés, à assurer aux survivants le minimum, eau potable, nourriture, et lorsque c'est possible, un toit au-dessus de leur tête. À des centaines de kilomètres de là, bien loin des dommages causés par le séisme d'une magnitude de 9,1 sur l'île de Batam, Jean-Pierre Tachereau remplit une mission tout aussi importante. Pour la Croix-Rouge, il coordonne l'arrivée de dizaines d'avions chargés de matériel d'urgence et de fournitures médicales. Un pont aérien qui permettra pendant des semaines d'assurer un lien vital entre l'Indonésie et le reste de la planète. À son arrivée, 17 avions convergeaient d'un peu partout dans le monde vers les lieux du drame. On ne savait pas où ils allaient atterrir, raconte aujourd'hui celui qui, 20 ans plus tard, est toujours à l'emploi de la Croix-Rouge. On ne pouvait pas atterrir à Bandahassé parce que l'aéroport local ne pouvait pas accueillir les gros avions intercontinentaux. Et de toute façon, il n'y avait pas de carburant pour le vol de retour. L'île indonésienne de Batam, qui fait face à Singapour, devient donc une station de transit pour l'aide qui afflue du monde entier, 24 heures sur 24. On peut dire que j'ai eu les clés de l'aéroport à ce moment, se souvient avec le sourire Jean-Pierre Tachereau. 2 décennies plus tard, le vétéran de l'humanitaire qui a également servi à Haïti et en Sierra Leone est encore marqué par ce moment de grâce où tout le monde voulait faire sa part pour que l'aide se rende le plus rapidement possible aux sinistrés. On a fait des choses qu'on pensait impossibles, dit-il avec émotion. J'ai réussi à faire venir un avion de Singapour et à obtenir une licence pour le faire voler à l'intérieur du pays en 48 heures, alors que normalement ça prend des mois. Cette lune de miel n'aura duré que quelques semaines avant que la bureaucratie ne reprenne ses droits, mais aura permis de diriger vers les lieux du drame des milliers de tonnes de matériel essentiel en provenance des 4 coins du globe. Vous écoutez, il y a 20 ans, un élan de générosité sans précédent, un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 23 décembre 2024 dans Le Devoir. Un élan mondial. À une époque où Internet et les réseaux sociaux ne sont pas encore omniprésents, il faut quelques jours après le raz-de-marée pour saisir l'ampleur du drame qui se joue en Asie du Sud-Est. Mais lorsque la gravité de la catastrophe est connue à l'échelle mondiale, c'est un élan de générosité sans précédent qui se déploie. En quelques mois, ce sont près de 14 milliards de dollars qui ont été amassés pour aider les sinistrés et rebâtir leur foyer. Au Canada seulement, la Société de la Croix-Rouge amasse en dons un montant record de 360 millions de dollars, la somme la plus élevée jamais recueillie par un organisme caritatif au pays. À eux seuls, les dons des simples citoyens canadiens, 190 millions, dépassent ceux offerts par le fédéral via l'Agence canadienne de développement international, ACDI, les gouvernements provinciaux et les entreprises. C'est une crise qui est arrivée à un moment de l'année où l'Occident est en vacances et a les yeux rivés sur sa télévision. Et évidemment, c'est une catastrophe d'une ampleur historique, affirme François Audette, directeur général de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire, pour expliquer le déluge de dons dirigés vers les organismes humanitaires. Le tsunami de 2004 et le tremblement de terre à Port-au-Prince 6 ans plus tard sont de rares exemples de catastrophes où les dons internationaux viennent combler ou même surpasser les besoins. Dans le cas du tsunami, Médecins sans frontières, MSF, submergé par les dons, ira même jusqu'à refuser de nouvelles donations. À l'inverse, dans 80% des cas, les crises humanitaires sont sous-financées, rappelle François Audette, qui a œuvré à l'aide aux sinistrés du tsunami pour Care Canada, puis pour la Croix-Rouge. J'ai fait ça pendant 20 ans, au Canada et à l'international, et c'est une des seules fois où j'ai senti que l'argent n'était pas une contrainte, se souvient Jean-Pierre Tachereau. Si tu pouvais faire quelque chose, tu le faisais. Nos contraintes à ce moment n'étaient pas financières, mais logistiques. Les surplus recueillis permettront de financer un système régional d'alerte au raz-de-marée et surtout une longue reconstruction qui s'est étalée sur plusieurs années. Rebâtir en mieux. Lorsqu'elle s'est rendue dans le district d'Ampara au Sri Lanka en 2007 pour le compte d'Oxfam Québec, Julie McHugh pouvait encore apercevoir des traces laissées par la vague géante 3 ans plus tôt. Des bateaux de pêche déplacés à des centaines de mètres de la côte, des bâtiments en ruine. Elle n'a peut-être pas vu le tsunami, mais elle était à même de constater les dégâts, tant physiques que psychologiques, laissés par la catastrophe. Tous les gens qu'on approchait étaient extrêmement marqués. C'était touchant d'entendre leur histoire. On voyait des familles qui s'étaient reconstruites, des femmes devenues chefs de ménage. C'était encore très présent 3 ans plus tard, souligne-t-elle. Après des premières semaines vécues dans l'urgence d'apporter les soins nécessaires aux survivants, la reconstruction, avec ses espoirs et ses échecs, se met en branle lors des premiers mois de 2005. Pour les agences humanitaires, le mot d'ordre est « build back better », reconstruire en mieux. On ne voulait pas que les gens retournent dans les mêmes conditions qu'avant le tsunami et on a réussi sur plusieurs points, estime Julie McHugh, qui a effectué 2 missions au Sri Lanka pour Oxfam, avec pour but de renforcer les moyens de subsistance des sinistrés, notamment par l'amélioration des méthodes agricoles et un meilleur accès à l'eau potable. Le fait d'être dans un projet de reconstruction, de voir les améliorations et les bienfaits qu'on pouvait apporter, rendait les choses beaucoup plus positives sur le terrain, explique celle qui est aujourd'hui à l'emploi de médecin du monde. Les gens avaient beaucoup d'espoir pour l'avenir, leurs revenus étaient en hausse, les conditions de vie également. La reconstruction n'a pas été exempte d'erreurs et de malversations, mais elle a tout de même rempli la majorité de ses promesses, ajoute François Odette, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. L'aide humanitaire, c'est la traduction de la solidarité internationale entre les peuples, rappelle-t-il. En ce sens, le tsunami de 2004, si horrible fut-il, peut donc évoquer quelque chose de positif pour les intervenants du secteur humanitaire. C'est une occasion de se rappeler qu'on a déjà été bon pour les réponses humanitaires, plaide Lina Holguin. Les gens étaient généreux, ils ont répondu à l'appel. Si on revient en 2024, les besoins humanitaires sont énormes et ne sont pas tous comblés. Penser au tsunami, ça nous rappelle l'importance de donner pour sauver des vies et permettre aux gens de se remettre sur pied. C'était, il y a 20 ans, un élan de générosité sans précédent, un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 23 décembre 2024 dans Le Devoir.
Sortir de l'ombre. Un texte de Vanessa Milne, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Après avoir subi une commotion cérébrale en janvier 2023, Nicole Weeks a passé près d'un an à lutter contre des symptômes tels que migraines, fatigue et étourdissement. Au début, cette femme de 43 ans n'a pas réalisé à quel point elle s'était fait mal à la tête. Je marchais sur le trottoir, j'ai glissé sur de la glace noire, je suis tombée vers l'arrière et ma tête a rebondi sur le sol, raconte-t-elle. Elle est restée allongée sur le dos, les bras en croix, pendant une minute, en état de choc. Convaincue qu'elle n'était pas blessée, elle s'est ensuite relevée, pressée de rejoindre une amie pour le brunch. À un moment, elle s'est sentie loin et étourdie lorsque son amie parlait, mais la sensation a fini par disparaître et elle n'y a plus pensé. C'est une semaine après sa chute que Nicole reçoit officiellement le diagnostic d'une commotion cérébrale. Ce retard dans le traitement pourrait être l'une des raisons pour lesquelles ses symptômes ont persisté si longtemps. Comme traitement, les médecins prescrivaient autrefois de se reposer dans une pièce sombre en évitant toute stimulation mentale. Mais grâce aux récentes recherches, nous savons maintenant que trop de repos et d'isolement peuvent nuire à la récupération. La meilleure approche se situe entre les deux, le repos actif. Un retour lent et progressif aux activités aide les patients à se rétablir plus rapidement et réduit le risque de dommages à long terme. Que se passe-t-il? Le cerveau est protégé par un liquide absorbant les chocs et, à l'extérieur, par le crâne. Lors d'une commotion cérébrale, le cerveau bouge à l'intérieur du crâne, heurtant l'arrière, l'avant, puis de nouveau l'arrière, créant ainsi une cascade d'impacts. Les neurones du cerveau sont ébranlés et, entre ces neurones, les axones, fibres fines qui transmettent les impulsions nerveuses, s'étirent ou se cassent. L'impact peut également réduire l'irrigation sanguine du cerveau et endommager les mitochondries des neurones qui créent de l'énergie. C'est comme si un tremblement de terre s'était produit à l'intérieur du cerveau. Tout est encore debout, mais il y a des fissures dans les routes et les fondations des bâtiments. Ces dommages microscopiques ont de graves conséquences. C'est pourquoi la commotion cérébrale est également connue sous le nom de traumatisme crânien. Le cerveau dépense beaucoup d'énergie pour se réparer, ce qui, combiné à la diminution de l'apport sanguin et aux dommages subis par les mitochondries, entraîne une fatigue extrême. D'autres symptômes peuvent apparaître, comme des maux de tête, des problèmes de mémoire, de l'irritabilité, de l'insomnie et des troubles de l'équilibre et du traitement visuel. Il y a des décennies, le public démontrait une attitude de laisser-faire à l'égard des commotions cérébrales. Les choses ont toutefois changé grâce à une meilleure prise de conscience des effets à long terme. Le film « Commotion » 2015 relate l'histoire vraie du médecin légiste Bennett Omalu, étudiant l'encéphalopathie traumatique chronique, ETC, un trouble cérébral causé par des traumatismes crâniens répétés. L'ETC provoque une dégénérescence cellulaire dans le cerveau et des symptômes tels que l'altération du jugement et la démence. La maladie ne peut être confirmée que lors d'une autopsie post-mortem et, ces dernières années, plusieurs anciens joueurs de la NFL et de la LNH ont été déclarés atteints, notamment l'ancien joueur des Broncos de Denver, Demaryius Thomas, et l'ancien joueur des Giants de New York, Frank Gifford. En juin dernier, Henri Richard, ancien joueur de la LNH pour les Canadiens de Montréal et membre du Temple de la renommée du hockey, a été diagnostiqué à titre posthume comme étant atteint de l'ETC. Il est décédé de la maladie d'Alzheimer en 2020. Bien qu'ils soient les exemples les plus médiatisés, les athlètes ne sont pas les seuls à souffrir de commotions cérébrales. Chaque année, environ 400 000 Canadiens en sont victimes. Parmi les personnes âgées de 20 à 64 ans, 30 % des commotions cérébrales résultent des chutes, suivies des sports, 21 % des accidents de travail, 15 % et des accidents de voiture, 11 % Chez les Canadiens de 65 ans et plus, les chutes sont de loin la cause la plus fréquente, avec 61 % La fin de la théorie de la pièce sombre. Le traitement de la pièce sombre, qui était jusqu'à récemment la norme prescrite par la plupart des médecins, impliquait que les patients se reposent dans l'obscurité jusqu'à ce que leurs symptômes disparaissent. Cette recommandation est issue d'études menées dans les années 1990 et 2000, révélant que des athlètes ayant subi une commotion cérébrale et qui continuaient à pratiquer une activité intense récupéraient plus lentement que ceux qui se reposaient. Après une commotion cérébrale, le cerveau utilise beaucoup d'énergie pour récupérer. C'est pourquoi la fatigue est un symptôme courant. Les médecins et les chercheurs ont donc conclu qu'en faire le moins possible, tant sur le plan cognitif que physique, permettrait de libérer l'énergie nécessaire au rétablissement du cerveau. Les personnes qui passent beaucoup de temps dans une pièce sombre sont également plus susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. Et leur corps s'affaiblit par manque d'activité. D'autres recherches ont ensuite démontré les bienfaits de maintenir un niveau modéré d'activité. Une étude de 2008, publiée dans le Journal of Athletic Training, a révélé que des athlètes pratiquant une activité modérée après une commotion cérébrale, comme retourner à l'école et reprendre les entraînements sportifs, obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire, de temps de réaction et de vitesse motrice visuelle que ceux qui se dépensaient davantage et que ceux qui faisaient peu d'efforts. La solution par étapes. La science et la recherche ont évolué au cours de la dernière décennie en montrant que l'arrêt total de l'activité retarde le processus de récupération. Explique Shelina Baboul, spécialiste des blessures sportives et professeure clinicienne au département de pédiatrie de l'Université de la Colombie-Britannique. On favorise une augmentation lente de l'activité en commençant par un ou deux jours de mouvement quotidien léger, en augmentant progressivement jusqu'à un retour complet aux activités normales sans restriction. Malgré l'avancement de la recherche, une grande partie du public et même de nombreux médecins ne connaissent pas les nouvelles pratiques en matière de commotion cérébrale. Pour faire passer le message, Shelina Baboul a créé un outil de sensibilisation. « J'ai des collègues extraordinaires », précise-t-elle, « mais il faut en moyenne 15 à 17 ans avant que la recherche scientifique ne passe du laboratoire au chevet du patient. » L'outil de formation, qui vise à éduquer le public, les médecins, les soignants et les entraîneurs, comprend des plans progressifs pour un retour à la vie quotidienne en 4 étapes. Vous écoutez? Sortir de l'ombre. Un texte de Vanessa Milne, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. La première étape doit être observée pendant 24 à 48 heures. Les patients sont encouragés à dormir, à éviter les écrans et la conduite automobile et à poursuivre des activités régulières à la maison, travaux ménagers, marches légères, etc. À la deuxième étape, les patients peuvent reprendre une activité aérobique légère à modérée, comme le vélo d'intérieur, la marche rapide et le jardinage. Ils peuvent réintroduire progressivement les écrans. Dès que le patient peut tolérer une activité aérobique modérée, il peut passer à la troisième étape qui consiste à retourner au travail ou à l'école et à reprendre la plupart de ses activités normales. Si ces activités provoquent la réapparition des symptômes, il doit arrêter et réessayer le lendemain. Enfin, à la quatrième étape, une fois qu'il peut faire tout cela, et qu'il a reçu l'autorisation d'un professionnel de la santé, le patient peut reprendre une activité normale sans restriction. L'objectif est de maintenir les gens dans leur fenêtre de tolérance, explique Shelina Baboul. Faire trop de choses trop tôt peut pousser le cerveau à la surcharge. Le docteur Charles Tater est neurochirurgien et directeur du Centre canadien des commotions cérébrales à Toronto. Il a été fait officier de l'Ordre du Canada et membre du Panthéon des sports canadiens pour ses travaux sur les commotions cérébrales et la sécurité dans le sport. Le docteur Tater suggère de limiter l'alcool et de ne pas consommer de cannabidiol, un produit du cannabis. Il semble empêcher la production de bonnes substances chimiques dans le cerveau de faire leur travail, explique-t-il. Bien dormir peut également aider, ce qui peut impliquer d'éviter la caféine ou de modifier son hygiène de sommeil. Les personnes ayant subi une commotion cérébrale sont plus susceptibles de souffrir d'apnée du sommeil, ajoute-t-il, et devrait consulter en cas de doute. À long terme, la récupération n'est pas aussi rapide qu'on le pensait, déclare le docteur Tater. Si l'on sait aujourd'hui que la plupart des gens se rétablissent en 4 semaines environ, on estime que 30 % d'entre eux présenteront des symptômes plus longtemps, et pour certains, ils peuvent même être permanents. En ce qui concerne le nombre et le type de symptômes, ainsi que le potentiel de récupération, il n'y a pas 2 patients pareils, Chacun a besoin de soins personnalisés, qui sont généralement prodigués par différents professionnels de la santé. Les personnes dont le vertige est un symptôme majeur, par exemple, doivent consulter un physiothérapeute vestibulaire, tandis que l'anxiété, la dépression ou les troubles post-traumatiques sont traités par un spécialiste de la santé mentale. D'autres facteurs influent sur la récupération, notamment la force de l'impact et le fait d'avoir déjà subi une commotion cérébrale. Plus d'un an après sa commotion cérébrale, Nicole Weeks a repris sa vie active. Mais elle ressent encore certains symptômes, comme des maux de tête et des étourdissements. Elle aurait aimé reconnaître plus tôt les signes d'une commotion cérébrale et ne peut s'empêcher de penser qu'une approche lente et progressive aurait fait la différence dans son rétablissement. C'est pourquoi l'éducation et la sensibilisation sont si importantes, explique Shelina Babul. Les personnes qui suivent les conseils et dont la prise en charge est appropriée ont tendance à se rétablir sans problème. Tandis que celles qui ne le font pas et qui continuent à pratiquer leurs activités et à fatiguer leur cerveau sont susceptibles d'avoir des symptômes persistants à long terme, explique-t-elle. L'essentiel est de les reconnaître immédiatement et de savoir ce qu'il faut faire. C'était « Sortir de l'ombre », un texte de Vanessa Milne, paru en avril 2024 dans « Sélection du Reader's Digest ».
Les meilleurs magasins où acheter vos meubles et électroménagers. Un texte de Marie-Ève Scheffer et Linda Gauthier paru le 29 août 2024 dans Protégez-vous. Vous devez acheter un sofa ou un frigo. Voyez quel détaillant de meubles et d'électroménagers vous donnera satisfaction parmi Costco, Tanguay, J.C. Perrault, Germain Larivière, Meubles RD et Briques, entre autres. Nos résultats s'appuient sur les témoignages de plus de 3200 consommateurs qui nous ont livré le fruit de leur expérience de magasinage. La rénovation et la décoration avaient la cote au plus fort de la pandémie de COVID-19, à tel point qu'en 2021, les ménages québécois ont acheté des meubles et des électroménagers pour la somme colossale de 6,8 milliards de dollars, selon Statistique Canada. Néanmoins, peu importe le contexte, il faut bien se meubler ou renouveler ses électros de temps en temps. Mais où aller? Pour vous aider dans votre magasinage, nous avons mené, au printemps 2024, une enquête de satisfaction portant sur les détaillants de meubles et d'électroménagers. Pas moins de 3269 consommateurs, membres de notre panel, ont donné leur avis sur les services et les produits offerts. En règle générale, ils sont plutôt contents de leur expérience, à laquelle ils accordent une note moyenne de 8,3 sur 10. Au bout du compte, 7 enseignes se distinguent. Costco, Accent Meubles, J.C. Perrault, les spécialistes de l'électroménager, Home Depot, Gagnon Frères et Tanguay. Vous avez donc l'embarras du choix. La règle d'or si vous devez changer votre mobilier ou vos électros. Comparez les produits ainsi que les prix et les services proposés. C'est ce qu'a fait Richard, 75 ans, quand il a dû remplacer des électroménagers. On a visité 5 endroits avant d'acheter, relate l'ancien mécanicien aéronautique, qui s'est aussi informé en ligne, car il voulait bien comprendre le fonctionnement de ses appareils et l'entretien qu'il requiert. C'est important pour garder ses électros longtemps et ne pas faire venir un réparateur pour rien, ajoute-t-il. On veut du service. Le service à la clientèle est crucial pour les participants à notre enquête. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux ont dit avoir été mal accompagnés dans leur achat. Ils se plaignent entre autres du manque d'écoute des vendeurs, des mauvais conseils obtenus et du personnel introuvable sur place. Bonne nouvelle, toutefois, des enseignes parviennent à s'illustrer pour leur service à la clientèle. Accent Meubles, J.C. Perrault, les spécialistes de l'électroménager, Branchot et Corbeil récoltent une excellente note en la matière. Costco, qui trône au sommet du palmarès, s'en tire de son côté avec un résultat acceptable. Comme quoi les consommateurs peuvent s'accommoder d'un soutien moyen s'ils obtiennent satisfaction sur d'autres aspects. Pour offrir du service, les détaillants doivent recruter du personnel et surtout s'organiser pour le retenir. C'est un défi, admet Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, CQCD. En 2022, d'un bout à l'autre de la province, près de 32 000 postes étaient vacants dans ce secteur d'activité. Mais ce nombre a chuté de moitié environ l'année suivante, selon l'Institut de la statistique du Québec. Des entreprises ciblent entre autres les aînés et les travailleurs étrangers pour compléter leur équipe. Produits en stock. S'assurer d'offrir des articles variés, de bonne qualité et en quantité suffisante. Voilà le défi principal des magasins de meubles et d'électroménagers. Seulement 6 enseignes réussissent à décrocher de bonnes notes, voire d'excellentes à ces 3 critères. Accent Meubles, J.C. Perrault, Tanguay, Corbeil, Renault Dépôt et Germain Larivière. Quant à Meubles RD et Economax, renommés Tanguay l'entrepôt en 2023, elles obtiennent de mauvais résultats pour ce qui est de la quantité de produits qu'elles gardent en stock et de leur diversité, mais elles se débrouillent un peu mieux en ce qui a trait à la qualité de ces derniers. Comme plusieurs autres secteurs d'activité, les détaillants de meubles ont éprouvé des difficultés d'approvisionnement durant la pandémie. Les fabricants se faisaient demander 2 fois plus de volume, mais ils produisaient de 40 à 60% moins en raison du manque de pièces, de matériaux et de personnel. On a rattrapé tous les retards en 2023, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des produits en rupture de stock à l'occasion, rapporte G. Doucette, directeur des ventes de J.C. Perrault. Des prix compétitifs recherchés. Hausse du coût de la vie oblige, le rapport qualité-prix s'avère primordial pour les consommateurs. Costco et les spécialistes de l'électroménager brillent sur cet aspect évalué dans notre enquête, de même que Renault Dépôt et IKEA. Comme le prix des meubles et des électroménagers a bondi ces dernières années, notamment en raison de l'inflation, les consommateurs s'adonnent à davantage de comparaisons. Le prix, c'est un critère sensible. Il va faire en sorte que les clients vont aller acheter ailleurs, constate un commerçant qui a préféré demeurer anonyme. Sinon, ils essaient de marchander dans l'espoir de faire baisser le prix affiché, selon CQCD. Le maillon faible, le service après-vente. Le service après-vente représente le talon d'Achille des magasins de meubles et d'électroménagers. Parmi les 11 enseignes pour lesquelles nous avons reçu un nombre suffisant de réponses à ce critère, Costco et les spécialistes de l'électroménager sont les seuls à recevoir une bonne note, voire une excellente. Les autres doivent se contenter d'un résultat acceptable ou mauvais, ou même très mauvais dans le cas de Bro et Martineau, dont les magasins ont été convertis en Tanguay en 2023, et de briques. Dans l'espoir de fidéliser leur clientèle, les commerçants devraient pourtant consentir des efforts au service après-vente, de l'avis de Julien Troisville, professeur de marketing à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Quand les plaintes sont bien gérées, les clients deviennent plus satisfaits et plus fidèles envers la marque, même s'ils ont eu une expérience négative. Or, la plupart des vendeurs sont rémunérés lorsqu'ils font une vente, mais pas quand ils gèrent un dossier problématique après la vente. Donc, ils n'ont aucun intérêt à passer du temps là-dessus. Yanny Grégoire, professeur de marketing à HEC Montréal, est du même avis. Si les détaillants veulent avoir de bons vendeurs qui génèrent des ventes, les payer à salaire fixe, ce ne sera pas suffisant. C'est un catch 22, une situation sans issue. L'achat en ligne reste marginal. À peine 13% des participants à notre enquête ont utilisé seulement le site Internet des commerçants pour effectuer leurs achats, et ils préfèrent y acheter des électroménagers que des meubles. Résultat de notre enquête. Les premiers de classe. 1. Costco. Siège social, Washington, États-Unis. Nombre de magasins au Québec, 23. Proportion de répondants qui recommandent cette enseigne, 90%. Appréciation générale, 9 sur 10. Commentaire. Chez Costco, le choix de produits est jugé restreint et le service à la clientèle moyen. La multinationale parvient cependant à s'illustrer dans la majorité des autres critères, comme ceux de la qualité de la marchandise et du rapport qualité-prix. Belle qualité des produits et prix raisonnable, résume un répondant à notre sondage. Cette enseigne est par ailleurs la seule à décrocher une note excellente pour le service après-vente. Les retours se font sans problème, se réjouit un consommateur qui a répondu à nos questions. Une très bonne note est aussi attribuée aux critères de la livraison, mais des personnes sondées ont souligné des lacunes à ce chapitre, notamment des livreurs qui ne parlent pas français ou qui endommagent les articles pendant leur déplacement. 2. Accent meubles. Siège social, Montréal. Nombre de magasins au Québec, 16. Proportion de répondants qui recommandent cette enseigne, 79%. Appréciation générale, 8,7 sur 10. Commentaire. Ce regroupement de magasins indépendants situés dans plusieurs régions du Québec est chapeauté par la société montréalaise Cantrex Nationwide. Il se distingue dans plusieurs critères, notamment ceux de la qualité des produits, du service de livraison et de l'aménagement des boutiques, mais c'est le service à la clientèle qui a été le plus souvent mentionné positivement dans les commentaires des répondants. C'est une famille qui a ce commerce depuis de nombreuses années. Tu n'as pas l'impression de les déranger, avoue une personne sondée qui a visité le magasin de Saint-Marc-des-Carrières, près de Québec. Accent meubles obtient également de bonnes notes pour ce qui est de la qualité des produits en stock et de leur variété, ainsi que du rapport qualité-prix. 3. J.C. Perrault. Siège social, Saint-Roch-de-l'Achigan. Nombre de magasins au Québec, 5. Proportion de répondants qui recommandent cette enseigne, 87%. Appréciation générale, 8,6 sur 10. Commentaire. Le service à la clientèle offert par J.C. Perrault est très apprécié par les répondants qui fréquentent ces magasins. Les vendeurs sont à l'écoute des besoins du client. Le programme d'entretien est proposé, mais sans insistance, décrit l'un d'eux. La diversité et la qualité des produits font partie des forces de cette chaîne. Les magasins vendent de bonnes marques, dit une personne sondée. J.C. Perrault obtient par ailleurs une note acceptable pour ce qui est du service après-vente, même si plusieurs participants à notre enquête ont souligné des lacunes à ce sujet. J'ai dû me déplacer en magasin et voir le directeur pour faire bouger les choses, déplore un consommateur. 4. Les spécialistes de l'électroménager. Siège social, Sherbrooke. Nombre de magasins au Québec, 8. Proportion de répondants qui recommandent cette enseigne, 83%. Appréciation générale, 8,6 sur 10. Commentaire. La chaîne Les spécialistes de l'électroménager peut compter sur des clients de longue date, à en croire les témoignages que nous avons reçus à son sujet. J'ai acheté tous mes électroménagers chez eux depuis plus de 50 ans en raison de la qualité du service, relate un répondant à notre sondage. Le service à la clientèle est en effet l'une des grandes forces de cette enseigne. Il en va de même de la qualité des produits offerts, de la livraison et du rapport qualité-prix. Ce détaillant reçoit aussi une bonne note en ce qui a trait au service après-vente. Il a rapidement réglé mon problème de frigo quand je lui ai montré des photos, raconte un participant à l'enquête qui a profité de la garantie sur son appareil. Trois autres enseignes ayant reçu la recommandation « Meilleur choix de protégez-vous ». Home Depot, Gagnon Frères et Tanguay. Vous écoutez les meilleurs magasins où acheter vos meubles et électroménagers, un texte de Marie-Ève Scheffer et Linda Gauthier paru le 29 août 2024 dans Protégez-vous. Les derniers de classe. Cinq détaillants de meubles et d'électroménagers ne parviennent pas à décrocher une note d'appréciation générale d'au moins 8 sur 10. En outre, moins de 65% des répondants qui les ont évalués sont prêts à recommander ces chaînes à un proche. Voici les cinq enseignes les moins appréciées par les participants à notre enquête. 1. Best Buy. Appréciation générale 7,8 sur 10. La multinationale obtient la note de passage à tous les critères pour lesquels nous l'avons évaluée. Les répondants à notre enquête ont constaté certains manquements au cours de leur expérience d'achat, notamment en ce qui concerne le service offert sur place. Il y a très peu d'aide pour effectuer un choix en magasin, souligne l'un d'eux. Le service après-vente a également contrarié certaines des personnes sondées. La porte du lave-vaisselle était graffinée, précise l'une d'entre elles. Les techniciens sont revenus avec une nouvelle porte, mais elle était aussi graffinée. 2. Beau et Martineau et Economax. Appréciation générale 7,7 et 7,3 sur 10. Ces enseignes n'existent plus. Leurs magasins portent désormais les noms de Tanguay ou de Tanguay l'entrepôt. À la vue des résultats de notre enquête, ces changements de nom sont loin d'être anodins. Tanguay est en effet beaucoup plus apprécié que Brou et Martineau et Economax. Le groupe BNTC a gardé la marque qui avait une meilleure réputation. Une meilleure image confirme Yannick Grégoire, professeur de marketing à HEC Montréal. Brou et Martineau se positionnaient juste sur le prix. Quand on met juste l'accent sur le prix, il faut couper quelque part. Le détaillant a possiblement coupé dans le service à la clientèle. Le service après-vente représentait la grande faiblesse de Brou et Martineau. Ce fut un cafouillis total pour la reprise du congélateur défectueux, se rappelle une personne sondée. Une autre rapporte qu'elle a dû discutailler pour faire honorer la garantie. Plusieurs répondants mentionnent que les vendeurs étaient insistants et qu'ils exerçaient de la pression pour forcer les achats. Quant à Economax, les participants à notre enquête ont noté plusieurs points faibles à son sujet, notamment la variété des produits ainsi que les quantités en stock. L'aménagement des magasins ne plaisait pas non plus aux personnes ayant répondu à nos questions, qui ont été par ailleurs très critiques à l'égard du service après-vente dans leurs commentaires. Un critère qui n'a pas été évalué pour cette enseigne en raison du nombre insuffisant de réponses à ce sujet. Brique. Appréciation générale 7,6 sur 10. Comme Brou et Martineau, le service après-vente constitue la grande faiblesse de Brique. Plusieurs répondants à notre sondage ont déploré la lenteur de la chaîne canadienne à régler les problèmes. L'un d'eux raconte qu'il a attendu plusieurs semaines la livraison de ses articles. Et ils sont arrivés endommagés, peste-t-il. Une autre personne sondée dit avoir fait des pieds et des mains pour faire remplacer la porte de son réfrigérateur. Nous avons dû intervenir auprès de la compagnie KitchenAid pour forcer Brick à honorer la garantie. À tous les autres critères que nous avons évalués, Brick s'en tire avec une note acceptable. Meubles RD. Appréciation générale, 7,6 sur 10. Jusqu'en 2019, cette enseigne était connue sous le nom de Surplus RD. Dans sa publicité, l'entreprise se targue de ne pas investir dans la décoration de ses magasins. Les consommateurs sondés ont accordé une note basse à l'aménagement des lieux, mais ils n'ont pas indiqué que cela les décourageait d'y aller. Leur reproche concerne plutôt la variété des produits et leur quantité en stock. Un répondant à notre sondage nous dit s'être fait livrer un réfrigérateur que les livreurs devaient assembler selon les termes de l'achat, mais que le livreur niait toute responsabilité. Oui ou non à la garantie prolongée? À peine 17% des participants à notre enquête ont payé pour une garantie prolongée qui vient s'ajouter aux garanties de base offertes par le fabricant ou le commerçant. Bric, J.C. Perrault, Brault et Martineau et Costco sont les enseignes qui ont convaincu le plus de consommateurs à acheter cette protection supplémentaire d'après notre sondage. Il faut dire que les commerçants réalisent des profits de 50 à 60 % sur la vente des garanties prolongées, selon Bloomberg. Les détaillants font de gros efforts sur le prix de la marchandise, puis ils essaient de récupérer de la marge sur les services associés, comme les garanties, explique Julien Troisville, professeur de marketing à l'UQAM. Les garanties légales. À l'instar d'autres médias de consommation tels Consumer Reports et Which, Protégez-vous recommande de refuser ces garanties prolongées. Au Québec, les biens que vous achetez sont déjà protégés par les garanties légales prévues dans la Loi sur la protection du consommateur, LPC. Elle vous assure qu'un bien peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et ne présente aucun vice caché. Quand vous achetez un meuble ou un électroménager, le commerçant a l'obligation de vous informer verbalement de l'existence d'une garantie de base gratuite et de vous remettre un avis écrit sur les garanties légales. Celle-ci s'applique automatiquement et sans frais, même si le commerçant ou le fabricant dit vendre le bien sans garantie, fait valoir le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, Charles Tanguay. Qui plus est, à partir de 2026, certains biens comme les cuisinières, les réfrigérateurs, les laveuses et les sécheuses seront couverts par la garantie de bon fonctionnement qui est mentionnée depuis peu dans la LPC. En fonction des durées de cette protection qui reste à être précisée, un produit défectueux devra être réparé gratuitement par le commerçant. En français, s'il vous plaît. Malgré un sursis annoncé au début de l'été 2024, le gouvernement du Québec entend exiger que les différentes fonctions des électroménagers soient présentées en français, ce qui inquiète au plus haut point les détaillants. Fini donc les boutons on-off, energy saver, timer ou light. Certains manufacturiers vont décider de ne plus vendre de produits au Québec, compte tenu du volume de vente. Ils nous l'ont dit, affirme G. Doucette, directeur des ventes de J.C. Perrault, qui craint que le choix de produits devienne alors beaucoup plus restreint. Le son de cloche est le même du côté d'un commerçant qui préfère rester anonyme et qui gère plusieurs magasins au Québec. Ça va nous nuire à moyen terme, estime-t-il. Moins de fournisseurs seront en mesure de nous vendre de la marchandise et les prix que paient les clients vont augmenter. Le Conseil du patronat du Québec se montre également inquiet, d'autant plus que les autorités américaines songent à imposer des sanctions au Canada. Ces exigences linguistiques sont en effet considérées comme des barrières commerciales par nos voisins du Sud, selon ce que rapportait CBC au début de l'été. Le cabinet du ministre de la langue française, Jean-François Roberge, dit vouloir mener d'autres consultations. On veut être certain de mettre cela sur papier d'une façon à ce que les entreprises y adhèrent et d'éviter qu'on se lance dans des batailles juridiques, déclare-t-il, sans préciser à quel moment la nouvelle mouture du règlement sera présentée. C'était « Les meilleurs magasins où acheter vos meubles et électroménagers », un texte de Marie-Ève Schaeffer et Linda Gauthier paru le 29 août 2024 dans « Protégez-vous ».
Faire parler son enfant mort grâce à l'IA, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 6 mars 2024, dans la presse. Les nouveaux développements en matière d'intelligence artificielle, IA, me fascinent et m'étonnent désormais plusieurs fois par mois. Souvent aussi, ils me bousculent. La plus récente innovation qui a provoqué chez moi tout ça à la fois, s'est produite aux États-Unis. Des familles qui souhaitent mettre de la pression sur les élus pour obtenir un meilleur contrôle des armes à feu ont utilisé l'IA pour recréer la voix de leurs enfants morts. On en est là, oui. Ces enfants, il y en a 6, ont été tués par des armes à feu au cours des 10 dernières années. Leur famille souhaite sensibiliser la population et les politiciens américains. Le Wall Street Journal, qui a publié un reportage sur cette initiative, a souligné que ces hypertrucages, deepfakes, marquent une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle. Je précise que les parents de ces enfants font preuve de transparence. On annonce clairement, à la fois sur le site web baptisé de Shotline, ainsi que dans chacun des enregistrements, le recours à l'intelligence artificielle. Contrairement à bien d'autres cas, on ne cherche ici à berner personne. Même s'il ne s'agit pas de désinformation, c'est tout de même très troublant. J'ai eu des frissons quand j'ai entendu les voix de ces jeunes ressuscités grâce à l'intelligence artificielle. Je l'ai d'ailleurs dit à Valérie Pisano, PDG de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, qui m'a offert son avis au sujet de ce phénomène. Je pense que le mot « frisson » est juste. On s'aventure très rapidement sur un territoire complètement inconnu dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas peu dire. On a des milliers d'années d'histoire et on n'a jamais eu la capacité de faire revivre la voix de nos morts, nous dit Valérie Pisano. Car ce n'est qu'un exemple parmi d'autres du fait que l'intelligence artificielle a le pouvoir de nous rendre artificiellement immortels. Une tendance qui soulève de nombreux questionnements éthiques. Valérie Pisano m'a appris qu'il existe déjà de nombreuses entreprises dont le modèle d'affaires repose sur l'idée de chercher à monnayer la possibilité d'exister en parole ou en image après notre mort. Ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est qu'on remet cette décision entre les mains de gens qui sont soit des experts en technologie, donc capables de créer des outils, soit des gens d'affaires qui ont du capital et qui veulent développer des produits et services, lance-t-elle. Devant le fait accompli, même réaction de la part de Jonathan Roberge, professeur titulaire du Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique. On est dans une situation inédite, ou presque. Il n'y a aucun principe de clairvoyance. On aurait dû penser qu'un cas comme ça allait arriver. Ils ont raison. Dans un monde idéal, ces initiatives seraient l'objet, en amont, d'une grande réflexion, de débats de société, d'un encadrement. Mais nous sommes désormais devant le fait accompli. D'ailleurs, des parents pourraient probablement faire la même chose au Québec en toute légalité, estime Marie-Ève Lacroix, professeure de droit à l'Université d'Ottawa. Est-ce qu'on pourrait dire que l'enfant n'avait pas consenti ou n'avait pas prononcé ses paroles? L'enfant n'est plus là. S'il n'a pas exprimé ses volontés de son vivant,
qu'est-ce qu'on peut revendiquer pour freiner cet élan de ses parents? À mon avis, ça n'engagerait pas un recours en justice, selon Marie-Ève Lacroix. Marie-Ève Lacroix vient de publier, avec le professeur Nicolas Vermeer de l'Université de Montréal, le livre « Responsabilité, IA, du droit québécois de la responsabilité civile à l'égard de l'intelligence artificielle ». Pour qu'il y ait un cas de responsabilité civile, il faut qu'il y ait un dommage, ajoute-t-elle. Mais dans ce cas-ci, c'est plutôt le contraire. Les parents veulent envoyer un message social de dénonciation et ils l'utilisent à cette fin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une réflexion à mener à ce sujet, bien au contraire. On se détache un peu des droits individuels qui s'éteignent à la mort pour migrer vers un sens plus sociétal, vers des valeurs collectives. Par exemple, on peut se poser comme question: est-ce que la société québécoise voudrait encourager de tels comportements? Ça démontre aussi, à mon sens, à quel point les élus qui souhaitent encadrer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle n'ont pas la partie facile. On a beaucoup parlé au cours de la dernière année, dans les médias, des dangers des hypertrucages. Des fausses images pornographiques de la chanteuse Taylor Swift aux appels destinés aux électeurs américains où l'IA avait été utilisée pour reproduire la voix de Joe Biden. Il faut interdire ce genre de dérives et pénaliser ceux qui les permettent. Mais tous les hypertrucages ne sont pas nécessairement nuisibles. Il faut distinguer différents cas de figure, confirme Jocelyn McClure, titulaire de la chaire Jarislowsky sur la nature humaine et la technologie, à l'Université McGill. Dans certains cas, comme celui d'entraîner l'intelligence artificielle sur les données d'une personne disparue, il n'est pas clair qu'il y a des torts. C'est plutôt une question qui relève de nos conceptions éthiques les plus profondes, précise l'expert. Mais dans d'autres cas, le contenu généré par des IA sous la forme d'hypertrucage, où l'on prétend que le contenu est généré par des humains, peut créer des torts importants, soit pour des individus ou pour la société, souligne-t-il. Le dentifrice est sorti du tube. Il n'y retournera pas. Il coule d'ailleurs très vite en ce moment. Alors, même si ce n'est pas simple de légiférer pour encadrer ces développements, on ne peut pas continuer de tourner autour du pot. Tant à Ottawa qu'à Québec, de nouvelles règles du jeu s'imposent au plus vite. C'était « Faire parler son enfant mort grâce à l'IA », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 6 mars 2024 dans la presse.